CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
La téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon. Alors bonjour et bienvenue à cette autre émission de Devant vos écrans. Vous êtes en compagnie d'Éric Laverdure, première émission de 2021, en espérant de votre côté que vous avez passé un temps des fêtes malgré tout agréable, hein, sous l'œil de la technologie. Pandémie oblige, nous avons certainement utilisé des logiciels de vidéoconférence pour l'un des repas des fêtes. Bref, que des choses agréables à vivre. On souhaite que l'an prochain se fasse en real life, comme on dit. Et je vous souhaite du même coup une excellente année 2021. On en a de besoin. Comme vous le savez sans doute, la planète techno n'a pas arrêté de tourner depuis, malgré le congé de devant vos écrans. Alors, on va revenir sur les produits techno les plus intéressants du Customer Electronic Show de Las Vegas, cette grande messe des produits techno qui s'est déroulée cette année, pas sous les lumières de la Strip à Las Vegas, et non à la maison. On va également... Je vais également vous éclairer sur des attaques informatiques qui ont touché ou touchent des entreprises québécoises, notamment cette nouvelle du Journal de Québec sur les cyberattaques, plus de 850 incidents en 2 ans chez Hydro-Québec. On va également parler du silence de Promutuel Assurance qui semble être dans le caca depuis presque 2-3 mois maintenant, qui ne donne pas de réponse à leurs clients. Et c'est assez important, les données se seraient retrouvées sur le dark web. On va revenir également sur la traque des émeutiers de la manifestation du Capitole au début du mois. Et finalement, on reviendra sur certaines nouvelles du monde du jeu vidéo parce qu'au fond, on est tous un peu un gamer. Alors, attachez votre clavier bien comme du monde, ça part! Comme je vous l'avais dit, eh bien, on débute en parlant du Customer Electronic Show à Las Vegas. Ben, je dis ça à Las Vegas parce que depuis que je suis jeune, bref, c'est à Las Vegas dans ma tête. Et bref, c'est toujours autant, c'est autant de glamour le CES, là, malgré mes idéaux de gauche qu'on peut effectivement bien déceler dans mon émission. Eh bien, le CES, depuis que je suis petit, a toujours été un peu comme le salon chasse-pêche ou bien le salon de l'habitation pour des boomers en quête de projet. Alors, c'est un peu pour ça que je suis bien content d'en parler aujourd'hui. Alors, on commence. C'est le CES de son nom long, qui est le Customer Electronic Show. C'est un peu comme une messe technologique qui se déroule tous les ans. Malgré la pandémie, The Show Must Go On, le premier CES, en fait, a eu lieu à New York en 1975 et est encore considéré aujourd'hui comme étant le salon pour présenter de nouvelles technologies. Par le passé, on y a découvert des produits qui aujourd'hui fut ou bien encore et encore dans notre quotidien. On peut penser notamment à l'enregistreur de VHS qui n'a pas enregistré une VHS. Bon, OK, peut-être beaucoup d'auditeurs qui sont nés post-99, mais les vieux de la vieille se rappellent qu'on pouvait enregistrer sur des VHS, la télévision par satellite, la radio HD. Et oui, à une époque, la radio n'était pas en HD, semblerait. Les tablettes et les téléphones Android. On peut penser à la Kinect de Microsoft qui a été présentée là. On se transformait notre corps en manette. Et plus récemment, bien la télévision 4K et les imprimantes 3D qui ont fait partie des grandes nouveautés dans ce salon-là. Alors cette année, un salon très différent, un salon qui sera certainement marqué par l'Internet des objets, comme à notre habitude, de plus en plus on s'en va vers là. Vous savez, l'Internet des objets, c'est l'Internet de tout ce qui est connecté. Alors par exemple, mon frigo qui est connecté, mon four qui est connecté, ma perceuse qui est connectée à l'Internet, bref, c'est ça les objets connectés. C'est pour ça que on veut développer les réseaux mobiles comme le 5G pour offrir une plus grande connectivité à ces objets-là qui vont faire de plus en plus partie de notre quotidien. Bref, alors commençons avec les meilleurs produits selon l'Association des journalistes du CES, que malheureusement je ne fais pas partie, mais qui sait, peut-être un jour CFAQ aura le budget pour m'envoyer à Las Vegas et parler de nouvelles technologies. On peut rêver en couleur. La première technologie qui a fait parler au CES cette année, c'est la navigation intérieure avec GoodMap Explore. Alors, on le sait bien, on utilise tous nos téléphones intelligents pour faire de la navigation routière, même la navigation à pied parfois, hein? Mais pour les gens à l'intérieur, c'était presque, c'était en fait une partie de l'industrie que personne avait cru bon aller chercher. Par exemple, je crois qu'il y a déjà des Google Maps pour certains centres d'achat, mais il l'a pas partout. Alors, il y a le créateur de GoodMap, qui est une application de navigation et d'information pour les malvoyants, qui est conçue pour les deux systèmes d'exploitation majeurs du côté des mobiles, alors l'iOS et Android. L'application guide son utilisateur à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est disponible au Canada et aux États-Unis à l'aide de messages audio. Alors, je pense que de ce côté-là, ce serait assez intéressant pour les gens aveugles d'avoir une meilleure, en fait, vision, hein, sans faire de mauvaises blagues, des lieux où ils se trouvent présentement. Sinon, un autre siège intéressant, avec un nom fort intéressant également, c'est la chaise de massage Body Friend. Bon, alors elle est surnommée la Lamborghini des chaises de massage. Elle est conçue pour exciter les sens de l'ouïe et du toucher à l'aide de caractéristiques comme le mode zéro gravité, des zones chauffées ou refroidies, sans oublier une foule de mécanismes pour les étirements et les massages. Son utilisateur peut lancer des commandes vocales qui sont interprétées par l'intelligence artificielle. La chaise Body Friend est également pourvue de haut-parleurs haut de gamme Quantum de Bang & Olufsen. Pour les gens qui savent c'est quoi du Bang & Olufsen, vous savez que ça sonne très bien. Alors, c'est une chaise assez particulière. By the way, pour les gens qui se le demandent, si vous écoutez l'émission soit en radiodiffusion ou bien en balado-diffusion, vous pourriez peut-être entendre des bruits de construction. Eh bien, je voudrais saluer les gens qui font de la construction présentement dans mon appartement. Alors, je suis un peu désolé pour tout ça, mais je pense que la qualité de son est quand même assez agréable de toute façon. Alors sinon, les drones, hein, qui ont pris le marché de plus en plus, depuis en fait les 10 dernières années, les drones font partie de nos vies et même ils s'améliorent de plus en plus. Ils vont remplacer les caméras pour certains événements, des événements sportifs, des événements de festivals à l'extérieur ou même juste de reconnaissance. Hein, même pour le monde militaire, les drones sont là depuis des années. Alors, c'est un nouveau drone américain. De l'américain Skydio, de la compagnie Skydio, qui est le X2, qui possède des capacités autonomes de jour comme de nuit pour les marchés commerciaux et de la défense. Alors, c'est conçu pour la reconnaissance du terrain, des inspections de bâtiments et des patrouilles de sécurité. Sa vision électronique comprend un double capteur optique et thermique. Alors, c'est pas le type de drone que tu aimerais avoir qui arrive chez toi. Je pense que tu commenceras à te poser des petites questions. Sinon, du côté de l'informatique, en cette année, la chose qui a marqué qui a marqué beaucoup le terrain, on pourrait presque dire, c'est les processeurs AMD Ryzen. Alors, c'est bon pour les gens, pardonnez-moi, là, je sais que des fois je suis très, très scientifique dans cette émission-là parce que je m'y connais beaucoup en informatique et en technologie. Un processeur, c'est tout simplement le cerveau de votre appareil technologique. Alors, par exemple, votre ordinateur, un processeur, votre téléphone cellulaire, un processeur, même votre voiture pour un processeur, certains modèles plus récents. Et là, la compagnie, dans ces combats-là, dans ces fabricants-là de processeurs, il y a deux grandes familles. Il y a la famille Intel et il y a la famille AMD. La famille Intel, d'origine israélienne, qui est très, c'est comme des trucs de plus de qualité. Quand tu parles d'Intel, t'as un petit doigt dans les airs, tandis qu'AMD, qui vient de la Corée du Sud, c'est plus pour tout le monde et c'est moins cher. Alors bien, AMD Ryzen, la série 5000, ont développé cette série-là qui offre une puissance de calcul inégalée et des performances exceptionnelles par watt grâce à une nouvelle infrastructure révolutionnaire de 7 nanomètres. Alors, 7 nanomètres, c'est la grosseur de la chip, là. Bref, alors c'est vachement intéressant. L'AMD Ryzen qui va sûrement être bien connu dans les prochaines années. Je pense que c'est AMD Ryzen qui est à l'intérieur des consoles comme Xbox ou même PlayStation. Et c'est un processeur quand même d'entrée de gamme qui est assez intéressant pour les gamers ou pour les gens qui voudraient peut-être un ordinateur puissant sans nécessairement vider les poches pour acheter du Intel. Sinon, quelque chose d'autre qui fait de plus en plus partie de notre quotidien, c'est les aspirateurs robots. Hein. Plusieurs personnes dans mon entourage commencent de plus en plus à en avoir. J'aimerais bien en avoir un, mais je trouve quand même que c'est un petit luxe. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que passer un petit coup de balai pour faire le ménage dans sa tête. Mais oui, les robots aspirateurs deviennent de plus en plus populaires. Samsung a sorti, en fait, Le JetBot 90 AI Plus, alors elle a une caméra LIDAR pour lire le terrain, ne rien bousculer. Elle a une intelligence artificielle pour gérer la navigation. Cet aspirateur robot équipé comme une voiture autonome. Il peut même garder un œil sur vos animaux pollus favoris quand vous n'êtes pas à la maison. Quand il est terminé le nettoyage, il transfère des saletés dans la station d'accueil. Alors, c'est vraiment un robot all-in-one. Assez intéressant, malgré tout, cette technologie qui devient de plus en plus populaire. Malgré tout, il faut faire attention. Cette technologie-là, parfois, ben, prenne en note un peu votre maison et un peu tous les endroits où tout ça s'y trouve. Alors, il faut malgré tout faire attention au côté enjeu sécurité. Les aspirateurs, malgré leur rêve qu'ils nous vendent hein, de ne plus devoir nettoyer à la maison les petites saletés du quotidien, bien peut parfois cacher des enjeux de sécurité très importants. Un autre objet, malgré tout, assez intéressant de ce CES-là, c'est l'ordinateur portatif Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED à double écran. Alors ça, c'est une bonne chose qui de plus en plus va devenir populaire dans les prochaines années. C'est les ordinateurs à deux écrans, un peu comme les téléphones aussi à deux écrans pliables. Eh bien, le ZenBook Pro Duo offre, par exemple, tu as un écran principal et tu as un autre écran en haut du clavier qui te permet parfois d'avoir deux types d'applications ouvertes en même temps ou bien une application qui va utiliser les deux. Par exemple, quand on fait du montage vidéo, ben, on pourrait mettre notre travail sur la grosse écran, mais notre ligne de montage sur la petite écran, ce qui nous permettrait de maximiser la taille de l'écran et d'offrir également une meilleure productivité pour certains. Pour l'instant, je pense que c'est encore un gadget. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé nécessairement de fonctionnalités précises à ces ordinateurs-là, deux écrans. Mais un peu comme n'importe quoi dans la planète techno, je pense qu'on va trouver une solution et une utilité à cet outil. Et sinon, ben, dernier produit qui a marqué l'esprit des journalistes du CES, c'est l'application Epsi qui est disponible sur iOS et Android. C'est une application qui est destinée aux patients qui simplifie la gestion des crises d'épilepsie en créant un journal de données pour suivre les crises, l'observance du traitement, les déclencheurs. Alors, EPSI fournit aux patients et aux médecins des informations utiles qui peuvent aider à accélérer le processus vers de meilleurs résultats. Les entrées enregistrées par le patient sont analysées pour déceler les tendances et les schémas, ce qui aide les patients épileptiques à mieux comprendre leur état, à améliorer leur qualité de vie. Alors, c'est de quoi de quand même assez intéressant aussi de ce point de vue-là. La technologie n'a pas juste du négatif parfois hein, avec tout ce qu'on peut que je peux raconter dans cette émission-là, mais également ça peut sauver des vies et améliorer en fait la vie de certaines personnes, dont les gens épileptiques, grâce à l'application Epsi. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tour d'horizon du CES et que vous en avez appris un peu plus sur les prochaines technologies. Un monde qui sera sûrement un peu plus sanitaire dans les prochaines années. J'ai l'impression que la santé va prendre un plus grand pan dans les prochaines conventions telles que le CES, parce qu'avec la COVID qu'on vit actuellement, je pense que les gens vont vouloir de plus en plus en savoir sur leur santé. Eh bien, sinon, de notre côté, on s'en va déjà en musique. On va aller écouter Nu-pieds dans l'orage de Distance Critique. Mais avant ça, on va aller écouter Annie ou le journal d'un incel par le Husky. On va aller écouter ça à l'instant. Vous êtes à devant vos écrans avec Éric Laverdure.
Annie, c'est ce soir que je remonte le temps jusqu'à mes 17 ans. C'est la fin du monde, je savoure les secondes où t'es presque ma blonde. Mon cœur est une bombe à retardement quand tu te tiens trop près de moi. Le trou qui s'ouvre devant me semble bien trop grand. Je t'amènerai bien avec moi. Le vent me disait tout le temps de foutre le camp. J'étais un idiot, je le crois. J'étais naïf et pur. J'avais le cœur dans la saumure. We'll
quand chill. On se craint quand chill, on vibe. 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 Yeah, 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 yeah. Garde chameleon. J'associe tout ce que j'aime avec un million. Holy motherfucking jeez comme Jeffy Lyon. Savage John. Harry comme des animaux. C'est quel ton frère d'un calino. T'as un made up man. Tout pas pareil dans le mind. On se rejoint dans le van. Quasiment tout sur le même. Conkling Clays à Bobinelle. On est déforaillés sur stage. Woof. Écoute des chiens qui aiment bien ce chien qu'on a géré sur un tape. Des chiens qui aiment rafler. On s'apparente à des grandes canités. De checklist, invente-les, moi j'en ai aucune idée. Par jamais de cachet pis juste de visibilité. Ouais, je suis extrêmement loin de ta débilité. Facilité, deux points. Nous rappons pour nous acheter facilité. Très loin, on sécurise les racks en toute fiscalité. Moi fake, notre clip joue sur le frigo. Je pense qu'il ferait le café, lance ça sur le barbet. Tous mes ranceurs, mes rages et mes thugs et mes ambianceurs. Tout ça tranqueur, le life ça la plug et mes ancêtres. On n'a pas volé nos places, concentre tous ce podcast. Hey, finis ton abonnement dans l'ouest, dans le très bon sens du terme. Hey, on chill on vibe, on se craint on chill on vibe. Hey, on se craint on chill on vibe, on se craint on chill on vibe, on se craint on chill on vibe, on se craint on chill on vibe. On se craint on chill on vibe, she chill, she
chill. My talk really fun, tell it stash, sell it quick la. What a wolf, trick the oof, feel up sa quittera. Tight high. Kickballs, lampes blanches, calabas, swag raw, 100%. Souvent quand même adéquat, on met mon bar dans mon labeur. Don't know what you're talking about. All you wish you had, a more break cash, with they pose up in your man. Le tub en pelle, un chien qui a une gueule, un full de poil, I'm on my shit. Pas besoin de smell it, sous ma semelle. J'en ai un gun, sur la web, gel qui shine, même pas de grill. Jeep électrique, serait pas un luxe, en 2019, se remplit de whack, on garde la foi comme sans manger. Toutes ces belles fucking années qui ont gâché. I just talk shit, c'est forum de HHQC. Qui l'a cru?
Qui?
Maman a pas élevé une tête de pute.
C'est sûr, c'est sûr.
Ah shit, la claque. Ils disent qu'ils veulent la claque. Ils veulent les grouillades. On va le donner direct. Un c'est old school comme un sound effect de fax. Vrai canaille, ouais. Call us more than tax.
Hey, on chill on vibe, on se craint on chill on vibe. Hey, on se craint on chill on vibe, 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 on se craint on chill on vibe. On se craint on chill on vibe.
Ciel couleur Facebook, pas bon pour un photoshoot. L'air blanc doit être blanc pour sa fête avec ton polo rouge. Girl show titties, métro j'arrive dans le photo booth. J'ai les poches pleines de vide, why you go so soon? Spiritually allumé, BK girl, getting paid for a day, like 7k, hey. Joint de si le poussin chat a déjà été, hey, hey. Si j'avais ce genre de copé grappé sur un playdate, on ira à Santa Fe, niaiser sur un vacay. J'attends juste de get paid, j'arrête pas de chaser. Alexandre m'a dit, what tu devrais pas le faire. J'veux juste vivre une nuit de luxe, oublier que j'suis prolétaire et pas propriétaire. Mon sport la seule affaire dont j'suis fucking fier. Pire comme si c'était hier, moment présent, safe space.
On se craint quand chill on vibe, 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 show.
Alors, seconde partie de l'émission, on va parler d'un sujet, de sujets assez intéressants qui regroupent pas mal la sécurité informatique, surtout nos institutions québécoises. Si vous ne le saviez pas, eh bien, Promutuel Assurance est présentement dans la chenoute avec plusieurs, en fait, avec une grande fuite importante de documents vers le dark web. En fait, c'est selon l'article de Jean-Michel Genois-Gagnon du Journal de Québec, toujours. En fait, selon le journaliste Promutuel Assurance, oui, pardonnez-moi pour les bruits, a tenu dans l'ignorance des courtiers des firmes dont le nom se retrouve publié dans des documents qui sont dans le dark web. Alors, en fait, aucun rapport n'a été formé non plus au commissaire à la protection de la vie privée du Québec et du Canada. Alors, c'est depuis décembre que les systèmes informatiques chez Promutuel sont paralysés. Même le journal de Montréal et de Québec révélait, en fait, cette semaine qu'au début du mois de janvier, des documents confidentiels avaient été publiés en ligne. Alors, l'entreprise a confirmé que oui, les informations ont été retrouvées sur le dark web, ajoutant que les 15 fichiers divulgués ne contenaient aucun numéro d'assurance sociale, permis de conduire, numéro de carte de crédit ou d'autres informations bancaires utiles à la fraude, notamment. L'assureur dit avoir aujourd'hui récupéré ces documents. Alors, pourtant, le journal en fait, de Québec et de Montréal a fait des enquêtes auprès des courtiers de firmes des firmes de courtage dont le nom se retrouve dans les documents. Et ils n'ont jamais été informés par Promutuel d'une fuite de documentation. Alors, au cours des derniers jours, l'assureur de la Ville de Québec n'avait pas voulu dire s'ils avaient contacté les individus impliqués dans cet incident. Promutuel avait répondu que les autorités réglementaires sont d'ores et déjà avisées de la situation et que la police a aussi été saisie de l'affaire. Mercredi dernier, le porte-parole de la Commission d'accès à l'information du Québec a souligné que son organisation n'avait pas eu d'échange avec l'assureur. Alors, selon Isabelle Gosselin, du bureau de la Commission d'accès à l'information du Québec, ils n'ont pas reçu de déclaration d'incident de la part de Promutuel. Alors, la réponse a été la même du côté du commissaire à la vie privée du Canada. Il n'y a pas eu de rapport d'incident. Toutefois, l'autorité des marchés financiers, elle, de son côté, a été avisée par le regroupement de mutuelles au mois de décembre lors de la cyberattaque. Actuellement au Québec, une entreprise n'est pas obligée de divulguer publiquement un vol de renseignements personnels ou un incident de sécurité. Elle n'est également pas forcée d'aviser le commissaire. Le projet de loi 64, qui devrait arriver prochainement, prévoit toutefois une modification à cette pratique. Sinon, de son côté, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, dont plusieurs membres sont assurés chez Promutuel, ils se disent préoccupés par cette attaque et surtout par le silence de l'assureur. Semblerait que depuis plusieurs mois, en fait, déjà, l'assureur est incapable d'être communiqué par différents moyens, dont par le téléphone, pour assurer des réponses à ses membres. Alors, c'est une question assez problématique de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une entreprise de cette grosseur-là, on pense aussi un peu comme il y a quelques années à Desjardins. Desjardins, c'est le même problème. Il avait eu des problèmes, il y avait eu des données qui avaient sorti dans les médias, qui avaient été hackées en fait, pas dans les médias, mais bref, dans le dark web. Et finalement, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Desjardins, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la personne qui a été arrêtée, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les données. Bref, on ressemble de plus en plus à un pays du tiers-monde du côté de la sécurité informatique de nos données. Et même, je suis sûr que les pays du tiers-monde ont une plus grande sécurité pour les données de leurs concitoyens et même de des entreprises privées. En parlant d'entreprises publiques, c'est le même journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon qui nous apprenait la semaine dernière qu'en l'espace de 2 ans, Hydro-Québec a été victime de plus de 850 incidents liés à la cybersécurité, dont une fuite de données causée par un stagiaire. En 2020, les renseignements personnels d'environ 300 personnes, 300 employés du fournisseur de la Société d'État ont été publiés en ligne. Alors, selon la direction, dans une réponse qu'elle a donnée aux journalistes, la menace est constante et en évolution. Depuis 2019, le fournisseur d'électricité des Québécois dit avoir constaté une hausse des cyberattaques de toutes sortes qui suit les courbes des grandes tendances d'attaques cybernétiques à travers le monde. Alors, en 2019, Hydro-Québec a enregistré 448 incidents de cybersécurité à travers son réseau et 409 l'année dernière. À l'automne, un stagiaire chez Hydro-Québec qui a depuis été remercié a publié sur un site web sans en avoir l'autorisation les renseignements personnels d'environ 300 employés de fournisseurs de la Société d'État. On retrouvait des dates de naissance, des adresses et des numéros de téléphone. L'ensemble des données a depuis été retiré de la page Internet. Alors, quelle connerie de la part du stagiaire. Je ne sais pas de son côté c'était quoi l'idée de publier ce type d'informations-là. Mais c'est assez problématique de ce côté-là. Les données qui ont été compromises, malgré tout, on a quand même offert une protection d'Equifax, bref, comme on fait tout le temps. Equifax, je pense que c'est le plus grand gagnant de tous les problèmes informatiques que le Québec vit ces temps-ci. Hydro-Québec n'est pas la seule organisation dans le secteur l'énergie à avoir face à des attaques. On le sait très bien que depuis plusieurs années, on sait qu'une des plus grandes cybermenaces nationales qui existe pour le Canada ou pour plein d'autres pays, c'est l'attaque aux infrastructures de fournisseurs d'électricité. Alors, on le sait, par exemple, qu'on peut paralyser un État, on peut paralyser un pays complètement en attaquant son réseau d'électricité. Alors, c'est un peu pour ça que j'espère qu'Hydro-Québec est l'une des entreprises, oui, québécoises, les plus protégées au point de vue de la sécurité informatique, parce que c'est vraiment pas évident de leur côté d'assurer, bref, une bonne sécurité pour nos informations, oui, mais aussi pour le réseau, justement. Et sinon, on s'en va un peu plus du côté de la politique américaine. Peut-être vous m'écoutez ce midi, peut-être vous avez décidé d'écouter d'autres choses, dont l'investisseur de Joe Biden. Alors, effectivement, Joe Biden qui sera aujourd'hui nommé 46e président des États-Unis. Alors ça, c'est quand même une bonne chose du point de vue, je pense que de l'État américain et de sa stabilité. Mais bref, Donald Trump va toujours, l'ancien président, va continuer à faire parler de lui. Notamment aujourd'hui, en fait, hier, c'est CBC News, le comparse anglais de Radio-Canada, qui nous apprenait que l'un des principaux sites web pro-Trump, qui s'appelle The Donald, était hébergé jusqu'à tout récemment par des serveurs situés à Montréal. Alors, l'Internet n'a pas nécessairement de frontières. Alors, c'est le forum de Donald qui est une source influente de désinformation, parfois relayée par le président américain, qui tient ses origines du réseau social Reddit, mais en juin 2020, Reddit a décidé de leur fermer le clapet. Alors, ils ont décidé de migrer eux-mêmes vers une plateforme qui était autonome. Alors, ils utilisaient des serveurs de l'entreprise située à Montréal, OVH, une société d'informatique qui a le siège social est en France, mais a quand même une grande part de ses serveurs à Montréal. Alors, on peut considérer que oui, dans un point de vue d'Internet libre et tout ça, OVH avait quand même le droit de hoster de Donald. C'est sûr qu'avant les meurtres du Capitole du 6 janvier, le site présentait des dizaines d'appels à la violence qui étaient à leur tour soutenus par des milliers d'internautes. Alors, je peux quand même me dire que du côté d'OVH, on s'est sûrement dit « bon, ça n'a pas vraiment de sens qu'on aille se déberger présentement sur nos serveurs ». Alors là, présentement, il y a eu des plaintes qui ont été faites, par exemple, par l'FBI, par des choses comme ça. Et là, OVH a commencé à faire une enquête et finalement, ils ont changé de serveur le 9 janvier dernier. OVH a également hébergé le site du mouvement des Boogaloo aussi, qui est un autre mouvement un peu con, relié au président des États-Unis. Bref, un mouvement de violence qui espérait en fait une grande révolution, ce que des gens allaient sortir dans les rues pour tuer des policiers, là, bref, des choses comme ça. Vous savez, en fait, la plupart des policiers qui ont été tués pendant les manifestations de Black Lives Matter ont été tués par des gens faisant de l'extrême droite du mouvement des Boogaloo. OVH se défendent, hein, ils font le plus possible la police, là, mais en même temps, pour avoir déjà travaillé dans une entreprise de hosting web, là, c'est pas évident non plus. Là, on peut pas non plus faire il y a pas des employés qui sont payés toute la journée à passer le ping fin sur les différents sites qui viennent d'être créés pour nous assurer qu'ils respectent tout ça. Puis au final, on a le droit de faire des sites qui parlent de tout tant qu'on ne contrevient pas aux lois du pays dans lequel le site est hosté. Donc, par exemple, ici au Canada, c'est l'appel à la violence qu'on n'a pas aimé. Mais au final, si on fait un site qui promouvoit Donald Trump, qui ne fait pas d'appel à la violence, ça aurait pu marcher. Alors, c'est ça qu'il faut quand même s'assurer. Et je ne suis pas pour couper le bec à des idées que je n'aime pas. Mais au final, il faut respecter les règlements comme tout le monde le font. Alors, c'est au moins de ce côté-là. Content de savoir qu'OVH a fait le ménage le ménage, en fait, là. Alors, de ce côté-là, ça va quand même bien. Sinon, ben, si on parle toujours des États-Unis puis de l'attaque du Capitole, eh bien, une autre nouvelle quand même assez intéressante. Alors, c'est cette femme qui, selon le FBI, qui a volé l'ordinateur, en fait, de Nancy Pelosi, la chef du... La présidente de la Chambre des représentants démocrate de la Californie. Alors, lors de l'émeute du 6 janvier, elle avait rentré dans son bureau, elle avait volé le portable et le but à elle, c'était de le vendre aux Russes. Alors, c'est la jeune fille du nom de Riley June Williams qui a été arrêtée lundi en Pennsylvanie, selon une liste sur le site web du ministère qui retrace ses arrestations effectuées en relation avec le siège du Capitole. Williams est accusé d'entrer ou de rester ciment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d'une entrée violente et d'une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole. Le FBI a déclaré dimanche dans un dossier judiciaire, qu'un témoin s'identifiait comme un ancien partenaire romantique avait déclaré au bureau que Williams avait l'intention d'envoyer l'appareil informatique à un ami en Russie qui prévoyait alors le vendre l'appareil au service de renseignement étranger russe. Le transfert a échoué pour des raisons inconnues et Williams a toujours l'ordinateur ou l'a bien détruit. Le témoin a également montré la vidéo du FBI de Williams volant apparemment l'ordinateur portable. L'arrestation de Williams est l'une des plus des 100 personnes arrêtées à ce jour dans le cadre des émeutes qui a fait 5 morts, dont celle du policier du Capitole, Brian Sechnik. Les émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole plus tôt ce mois-ci ont accédé au bureau de Pelosi, la chef du... depuis ce temps-là, l'ordinateur était manquant pour faire des présentations. Pardonnez-moi, il y a même des gens qui disaient que les informations sur cet ordinateur-là allaient servir de grandes révélations bientôt pour continuer, poursuivre les plans de Donald Trump et tout ça. Là. Alors, ce qui semble ne pas être le cas, il a été retrouvé. Est-ce que les informations auraient pu être clonées? Est-ce que l'ordinateur aurait pu être sauvegardé complètement sur une clé USB et envoyé? Bref, on ne le sait pas. Mais je serais très surpris si les ordinateurs du gouvernement n'auraient pas de système pour pouvoir se détruire à distance, là, pouvoir encrypter le disque dur si l'ordinateur est considéré volé. Puis dès à la prochaine connexion sur Internet, tout d'un coup, il devient inutilisable. Bref, au moins de ce côté-là, très intéressant de savoir en fait que tout d'un coup, le FBI a quand même de longues mains pour frapper contre les pirates de ce genre ou même pour frapper contre les gens. Comme Mme Williams, qui a volé des ordinateurs sans nécessairement le savoir. Sans le vouloir, mais en fait pas sans le vouloir, mais avec un but menaçant et qui heureusement s'est fait arrêter. Encore désolé pour les drôles de sons. C'est peut-être juste moi qui les entends aussi. Hein? Fait que je m'en excuse de ce côté-là. Alors de notre côté, eh bien, on va continuer en musique. On va aller écouter « Tu ne peux plus mourir » de Louis Capril et « Too late » de Danny Placard. Après ça, eh bien, on ferme l'émission et on parle jeux vidéo rapidement, hein, parce qu'avec le bouquin que les gars de la construction font en ce moment, je ne peux pas enregistrer trop longtemps. Alors on revient après.
Je vois le feu. Yeah. ici se sont tous mis contre moi pour que je me fasse pogner à la foire à où j'ai mis le feu d'en couler avec une canisse de gaz puis deux, trois bûches mouillées à la foire. Que j'ai vraiment su qui les avait appelés. Il y a 10 ans, m'a dit, je pourrais jurer devant Dieu de t'aimer toute ma vie. Moi, hier, caché en arrière de mon air bête, j'ai dit, ah oui, ma chérie. La lune pour le reste de ma vie. Ah oui, j'ai toujours eu bien envie de coucher avec la lune pour le reste de ma
retour à devant vos écrans. En cette dernière partie d'émission, on va parler un peu jeux vidéo, bien sûr, parce que c'est une de mes passions et c'est une de mes sujets de prédilection. Alors, j'espère pouvoir vous éclairer sur certains sujets. Alors, tout d'abord, on va parler pratiques anticoncurrentielles. C'est sorti aujourd'hui. C'est la Commission européenne qui inflige des amendes d'un montant total de 7,8 millions d'euros à Valve, l'éditeur de Half-Life et le provider, le créateur de Steam, et à 5 éditeurs de jeux vidéo sur PC pour des pratiques de blocage géographique. Alors, le blocage géographique, ben, c'est quand on bloque, par exemple, on bloque le prix d'une personne, en fait, selon sa localisation qu'elle est. Et ça, ben, c'est contre l'espace, en fait, c'est contre les règlements de l'Union européenne de faire ça. Alors, on a, en fait... Alors, c'est en plus de Steam et de Valve, eh bien, il y a Bandai Namco, il y a Capcom, Focus Home, qui vient de France, Koch Media et ZeniMax. Alors, c'est un montant de 7,8 millions d'euros qu'on va devoir rembourser pour des pratiques anticoncurrentielles. Alors, c'est des accords qui ont été conclus, c'est des choses qui datent depuis presque 11 ans. Alors, c'est pour ça que c'est aussi cher, cela, en fait, va permettre peut-être que des prix devraient être plus régulier, en fait, de ce côté-là. Sinon, ben, étant donné que les entreprises ont quand même coopéré, ça fait que les entreprises ne paieront pas nécessairement au complet cette triste facture. Bien content de voir de plus en plus des grandes organisations gouvernementales et supra-gouvernementales, un peu comme la Commission européenne, s'occuper de l'industrie du jeu vidéo, qui a été un peu un free-for-all depuis les dernières années. Alors, de ce côté-là, si ça peut rassurer les consommateurs et ça peut en même temps leur donner plus d'argent dans leur poche et aussi ben, leur offrir une meilleure expérience, eh bien, ce sera ça de gagner. Sinon, autre nouvelle du côté du monde du jeu vidéo de compétition, c'est un joueur de Mortal Kombat qui a été disqualifié d'un tournoi pour avoir critiqué les développeurs. Alors, c'est lors d'un tournoi officiel de Mortal Kombat 11, le 16 janvier dernier, que le finaliste Titanium Tigers a été disqualifié après avoir appelé en plaisantant le développeur, NetherRealm Studio. En fait, il a fait un set move, un groupe de pitons là, qui fait décider, puis il l'a appelé Why Did NRS Do This? Alors, Why NetherRealm Studio Do This? Alors la disqualification a fait un moment assez gênant sur le stream. En fait, lorsque la diffusion officielle a coupé le match parce que, ben, notamment, il allait se faire disqualifier. Alors finalement, les streamers, les gens qui animaient la rencontre ont dû expliquer un peu la situation et dire que c'est important pour tout le monde de respecter les règles. Tout le monde doit être respectueux. Alors, Titanium Tigers qui a été en fait qui a été disqualifié de cette compétition-là de Mortal Kombat. Ça arrive. Maintenant, bon, après cette disqualification, ben, premièrement, les règlements n'interdisent pas ce type de manifestation-là dans les codes de conduite de la compétition. Alors, point 1, pourquoi il s'est fait refuser la compétition comme ça? Et deuxièmement, eh bien, depuis la disqualification, le hashtag Why Did NRS Do This s'est répandu dans la communauté Mortal Kombat sur Twitter. Alors, ironiquement, ben, c'est un peu l'effet Barbara Streisand. Hein? On essaye de ne pas en parler. Eh bien, on n'en fait que rajouter de l'huile sur le feu et d'en parler continuellement. Alors, de ce côté-là, ben, on envoie plein de positifs à Titanium Tigers pour que ça puisse se régler tout ça. Dernière nouvelle concernant le jeu qui a été sûrement le plus joué, le plus téléchargé lors de ce premier confinement qu'on a vécu dans les derniers mois, presque un an maintenant, c'est le jeu Among Us. Alors, premièrement, ben, on le sait que il était supposé avoir une nouvelle carte qui a été annoncée dans les derniers mois. Finalement, la carte tarde à arriver. Alors, en fait, c'est Inner Slot, les créateurs du jeu, qui, en fait, s'expliquent sur leur blog des retards. Notamment, ben, l'équipe était composée de 4 personnes à l'origine, de 4 personnes, maintenant 3 à l'origine. Alors, c'est un petit studio et qui ont remporté une grande somme d'argent avec leur jeu Among Us, ce qui a fait qu'ils doivent se réorganiser à long terme. Alors, depuis les 2 derniers mois, ça semblerait qu'ils se restructurent. Ils ont aussi sorti leur jeu sur différentes plateformes. On peut parler de la Nintendo Switch et de la Xbox. C'est qui signifie beaucoup plus de support et de certification à passer. Parce qu'avant qu'un jeu soit sur les internets, il faut qu'il soit certifié par la compagnie avant. Alors, il y a beaucoup d'anneaux à sauter, des cerceaux à sauter, en fait, pour s'assurer que le jeu soit bien certifié. Et sinon, ben, en fait, on pourrait leur demander ben, pourquoi vous engagez pas plus de monde. Eh bien, le studio répond que engager plus de gens n'accélère pas nécessairement le développement. Il faut les former, ces gens-là. Et souvent, de grandes entreprises, ben, quand on grossit trop vite, c'est là qu'on fait faillite. Alors, l'entreprise promet quand même d'être plus transparent à l'avenir et ils vont sortir une feuille de route pour l'année 2021, roadmap, comme on appelle dans le domaine, qui va nous permettre de suivre les différents développements du jeu pour la prochaine année. Mais malheureusement, il n'y a pas de date pour la prochaine sortie de la nouvelle carte de Among Us, malheureusement pour les gens qui l'attendent avec impatience. Alors de notre côté, eh bien c'est déjà la fin pour devant vos écrans avec Éric Laverdure, en espérant que vous avez apprécié cette émission-là. Un peu bizarrement enregistrée à la maison, en espérant que les autres soient faits dans un état un peu plus collégial. Et de notre côté, bon, on se dit à la semaine prochaine. Et sinon, ben, passez une excellente journée sur les ondes du CFAK 88.3. Ne manquez pas le Touski dès 16h. Et sinon, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information. Merci et bye bye.